Avis de valeur, une émission présentée par Henri Buzicazo.
Avis de valeur est une nouvelle émission, c'est une naissance qu'on fait aujourd'hui sur Radio Immo. Pourquoi cette émission? Alors, pour dire la vérité, et aussi pour confronter deux points de vue, on a trouvé que aucune émission n'existait qui mette face à face, allez, on va dire quelqu'un de gradé, qui ait des responsabilités hein, dans le secteur de l'immobilier, et puis quelqu'un qui, sur le terrain, fait le métier de l'immobilier, la transaction, la gestion. On a vraiment voulu confronter ces deux points de vue. Ce sont deux niveaux d'appréciation des questions qui peuvent importer pour le public ou pour la profession elle-même. Voilà le principe. Alors, ce principe, je remercie mes deux invités du jour. Ils vont essuyer les plâtres avec moi hein, et avec le public. Ils ont accepté de jouer ce jeu, de croiser leurs regards. Peut-être seront-ils d'accord sur certains sujets, peut-être pas. En tout cas, la richesse du débat viendra de cette différence d'appréciation. Je présente d'abord Delphine Hermand. Elle n'est pas agent immobilier, elle est chasseur d'appartements. Elle va nous dire en deux minutes tout à l'heure ce qu'est ce métier. Elle est en région parisienne, son activité, elle l'exerce en région parisienne, et pas seulement, hein, mais son entreprise y est basée. Et puis, une figure de ce secteur, Stéphane Fritz, il est le patron du réseau Guy Hoquet, troisième réseau de France, une belle maison, une marque bien connue. Et puis, je peux dire de lui que c'est une personnalité hors norme. Voilà. Alors, je vais d'abord faire réagir Stéphane avant Delphine, et avant de vous dire de quoi on va vraiment parler aujourd'hui. Ah, je dis personnalité hors norme déjà par un parcours professionnel singulier, plus de 6 ans de Légion étrangère comme parachutiste, et puis ensuite l'immobilier, d'abord au service. Allez, on est confraternel ici, hein, et on le restera au fil des mois, au service d'une autre grande marque, Century 21, oui. Et puis ensuite une grande fidélité jusqu'à la présidence récente. Du réseau Guy Hoquet. Cette période militaire, tu en gardes quoi au service de ton activité immobilière aujourd'hui ?
Alors, bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Très clairement, le management, la simplicité du management. Le management, c'est quelque chose de simple qu'il faut appliquer simplement, cette lecture simple des situations complexes.
L'agilité aussi, parce qu'on va en parler, c'est pas inutile.
Aussi, mais principalement, si je devais sortir une chose, c'est vraiment le management et sa simplicité dans son application. Quand on est militaire, bien évidemment, je ne manage pas de la même manière qu'on manage des militaires, mais en tout cas, on y retrouve énormément de code.
L'audace aussi ?
L'audace, j'espère que j'en fais preuve.
Dans l'entreprise ?
Oui, j'espère aussi.
Parfait. Combien d'agences immobilières dans le réseau ? On va juste rappeler
580.
Ça. France entière, hein, donc
France
une vision.
France entière, DOM-TOM.
Vision panoramique.
Oui. De l'Observatoire France.
Merci beaucoup. Delphine, qu'est-ce qu'un chasseur d'appartements ? Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache encore, c'est un métier qui est assez récent. Mm-hmm. Celui d'agent immobilier est très ancien, tout le monde sait ce qu'est un agent immobilier. Quelle est la nuance ?
La nuance, c'est que le chasseur d'appartements est au service exclusif de l'acquéreur. Donc il va aller chercher et trouver et sécuriser l'achat immobilier d'un acquéreur sur l'ensemble du marché en défendant ses intérêts. Donc en règle générale, c'est un métier qu'on retrouve dans les grandes villes, sur des marchés plutôt tendus, où les gens n'ont pas forcément le temps ou ne sont pas forcément sur place pour réaliser leur acquisition. Donc on est très complémentaire de l'agent immobilier.
Des clients qui vont être plus haut de gamme en termes de revenus, gens très occupés, j'imagine, puisqu'ils ont besoin de quelqu'un qui va relayer leur recherche.
Oui, tout à fait. On est sur une clientèle un petit peu plus CSP+, essentiellement de gens qui ont des métiers très prenants, des professions libérales, des cadres supérieurs, et des primo-accédants aussi, mais qui ont un métier très prenant, une activité très prenante, pardon, et aussi parce qu'on est un coût supplémentaire dans les frais de la transaction, si je puis dire, pour eux. Donc, ils se paient cette délégation de service.
Parfait. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Bah, à la fois pour la première de cette émission, et puis parce que c'est le début de l'année, on va parler du marché, Nous sommes au cœur de circonstances exceptionnelles dans notre pays. Une crise sanitaire, elle est toujours là. On va parler peut-être de reconfinement à l'échelon de l'État dans quelques heures. Une crise économique, bien sûr. Hein, une baisse du produit intérieur brut annoncée ce matin de plus de 8%. Et puis une crise sociale avec des désarrois, des situations difficiles. Impact sur l'immobilier, ça préoccupe tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Qu'est-ce qui va se passer surtout? Est-ce qu'on comprend bien lorsqu'on est dans la rue, lorsqu'on n'est pas un professionnel, et même lorsqu'on est un professionnel, est-ce qu'on y voit clair? Est-ce qu'on sait comment on va pouvoir réaliser ou pas, avec quelles difficultés ou quelles facilités ces projets? On n'a pas voulu, ça aussi, ça va être un principe de l'émission, considérer que nous, on sait tout, qu'on a en tête les bonnes questions. On les a peut-être pas. Et on est allé dans la rue, dans les commerces, et on a interrogé les personnes qui sont vos clients, vos prospects, pour les faire réagir. Première question, est-ce que le degré de qualité de l'information est suffisant pour le public? Est-ce qu'ils comprennent à lire la presse, à écouter la radio ou à regarder la télévision? On en voit.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Est-ce que pour vous, le marché immobilier est aujourd'hui lisible ?
Je m'y intéresse assez peu, je suis déjà propriétaire. J'ai vu que les loyers étaient en baisse, a priori.
Écoutez, je pense que les informations sont relativement claires. On en reçoit de différents canaux. Tant la radio que les journaux spécialisés, etc. On est d'ailleurs très souvent sollicité soi-même par des sociétés qui souhaitent estimer votre appartement, etc., etc. Donc oui, globalement, je pense que j'en sais suffisamment pour l'intérêt que je porte à l'immobilier.
Alors, niveau de réponse d'ailleurs, hein, quelqu'un qui ramène ça à l'estimation de son bien, c'est une donnée, et puis quelqu'un qui nous dit « bon, je suis pas très intéressé, mais... » Bon, Stéphane, moi j'ai vraiment l'impression, je donne mon sentiment, qu'on a une multiplicité de sources, et que déjà la première difficulté pour le public, ça va être de savoir à quel sein se vouer. Alors, beaucoup de sources crédibles, les notaires, les réseaux, mais ils sont pluriels déjà. Les organisations professionnelles, la FNAIM, bien sûr, le leader, mais d'autres aussi. Ton sentiment à toi. Alors c'est là aussi, c'est peut-être l'ancien militaire. Est-ce que on a assez de repères pour s'orienter sur cette voie qui est complexe de l'acquisition immobilière?
Alors, je pense que déjà, on a multicanaux, multi-experts, mais je pense qu'il y a de nombreux experts. Aujourd'hui, on est nourri quand même par l'information sur l'immobilier, et assez fortement. Il y en a peut-être trop, et on le voit, puisque les émissions aujourd'hui se multiplient, les émissions d'information ou de distraction se multiplient. Donc je pense qu'on est abreuvé d'informations, avec des informations souvent contraires. C'est peut-être ça le problème. C'est-à-dire que des gens qui disent que tout va bien et d'autres qui disent que tout va mal.
Alors, je n'osais pas le dire, mais puisque tu le dis, voilà, c'est lancé. Oui. Oui, déjà, en tendance, il y a ceux qui sont plus sur le signe moins et d'autres sur le signe plus. Oui. Y compris pour la réalité, c'est-à-dire les mois écoulés. Oui. Les mois écoulés. J'entends que 2020 pourrait, on n'a pas encore les chiffres définitifs, après on se taira, mais être en baisse de 15, 16, 17, 18%, d'autres disent de 4, 5%, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Aujourd'hui, il y a un chiffre qui court et il va falloir attendre pour qu'il s'arrête, hein, puisque je vous rappelle qu'on était à 1 060 000 transactions l'an dernier, mais il a fallu arriver au mois de février pour pouvoir l'arrêter. Aujourd'hui, dans l'ancien, on parle de 960 000. Alors, raison gardée, il semblerait qu'on ait quand même lourdement passé la barre des 900 000, ce qui donne une baisse des volumes de vente d'un peu plus de 10%. Bon, c'est pas énorme compte tenu qu'on a eu quand même 3 mois d'inactivité. Quoi. Donc,
alors, en tout cas, tu reconnais qu'il y a une diversité de sources, qu'il y a effectivement des contradictions et des vraies différences d'appréciation de ce qui s'est passé ou de ce qui va
non,
se
non,
passer.
Ce qui va se passer. Sur ce qui s'est passé, il y a beaucoup d'anticipation, de gens qui veulent prendre la parole tout de suite pour essayer d'avoir le bon chiffre. Et on voit bien qu'il évolue 2 mois plus tard, parce qu'il faut d'abord arrêter les comptes. Mais on voit aujourd'hui que ça va malgré tout être une bonne année, parce qu'une perte de 10% des volumes, ça c'est sur ce qui s'est passé, une perte de 10% des volumes sur l'année, à contrario, en face de 3 mois d'inactivité, un quart de l'année sans activité, c'est pas... Enfin, c'est-à-dire qu'on fait quand même malgré tout une belle année. Ça, c'est ce que ça dit. Ce qu'il a été dit L'après-confinement, c'était des alarmistes qui parlaient de d'hécatombe en termes de chômage, d'hécatombe en termes de fermeture d'agences immobilières, en perte de 25% des transactions, ce qui n'a pas été le cas.
Président de la FNAIM, on peut le rappeler, lors du premier confinement, avait dit on a un risque de mortalité sur 3000 agences. Hein.
Il avait parlé d'un risque. Et 20 000 collaborateurs.
Et 20 000 collaborateurs, tout à fait.
Ce qui n'est pas du tout arrivé. Hein. Nous, on expliquait qu'on perdrait personne, puisque... Il y avait quelque chose de factuel à entendre, c'est-à-dire toutes les aides d'État qui ont soutenu, et d'ailleurs aujourd'hui on le voit, on n'a jamais eu, tout métier confondu, jamais eu aussi peu de défaillance qu'en 2020. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu un taux de défaillance aussi peu élevé, donc on voit bien que tout le monde a été soutenu. Est-ce que ça va arriver demain ?
D'accord.
C'est une question, ça.
En tout cas, tu ne regrettes pas la multiplicité des sources ? Tu dis que c'est une richesse ? Tu dis que malgré les contradictions, oui. Que le public fasse son choix, son tri ?
Non, je préférais qu'on ait une information donnée avec de la data d'État. C'est ce qui serait le plus crédible. Mais les notaires se sont trompés. On a annoncé un moins 15% en... Comment on peut annoncer des baisses de prix aujourd'hui quand on a un tel déficit en logement et une telle pression de la demande? C'est compliqué.
Dans vos appréciations, là je parle des réseaux d'agences, hein, tu es l'un d'entre eux, l'un des leaders, est-ce qu'il y a des effets de territoire qui peuvent expliquer vos différences? C'est-à-dire que tel réseau serait plus urbain, tel réseau plus présent dans des villes moyennes, voire dans des zones rurales. Est-ce que ça peut être une explication, ça?
Ça pourrait l'être si jamais il y avait vraiment des grandes, grandes différences.
D'accord.
Mais il n'y en a pas. Globalement, on n'est pas présent dans le centre. Plateau des Mille Vaches, on n'est pas plaisant. Enfin, voilà, et on est présent autour de grandes agglos.
D'accord.
Et ça, sur les grandes agglos, on est tous présents, y compris les plus petits. Quoi.
D'accord. Delphine, même question. Ton appréciation sur cette lisibilité de l'information?
Le premier point, c'est qu'on est quand même à l'ère de l'open data, la donnée ouverte. Donc ça, c'est plutôt une force. Et ce sont des données qu'on n'avait pas en termes d'accessibilité, ni nous, professionnels, ni le grand public, il y a quelques années.
Même Bercy ouvre ses
livres.
Oui, en partie. On peut savoir les transactions qui se sont faites, à quel prix, etc.
Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt un point positif pour faire en sorte que chacun d'entre nous, professionnel ou particulier, puisse avoir de l'information... là, en l'occurrence, sur le logement ou l'immobilier, mais c'est vrai sur plein d'autres domaines. Après, effectivement, il y a une multiplication des sources que je vais appeler commerciales, c'est-à-dire notamment des réseaux, là, si je parle des réseaux immobiliers, avec, comme tu le disais tout à l'heure, des chiffres qui peuvent varier du simple au double, qu'on parle de volume de transactions, qu'on parle de valeur de prix, etc. Je trouve que ce qui est difficile pour se retrouver là-dedans quand on est un particulier, et on le voit, nous, au contact des acquéreurs, c'est que... on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Enfin, on est bien placé pour le savoir avec mon associé pour avoir longtemps travaillé dans les études et le marketing. Vous pouvez leur faire dire ce que vous voulez. En revanche, on a pour moi un devoir de conseil, de vérité et de pédagogie vis-à-vis des particuliers. Et donc, il est important, quand on donne un chiffre, d'expliquer son périmètre, d'expliquer sur quoi il est basé, d'expliquer, par exemple, quand on prend les données des notaires, les gens ne savent pas forcément que, et c'est normal qu'ils ne le sachent pas, parfois la commission d'agence, quand il y avait une agence qui a fait l'intermédiaire, elle est incluse dans le prix qu'on va voir, et puis en fait, non, si c'était une charge acquéreur, enfin, tout ça, c'est un jargon très technique, mais en fait, la multiplication des sources fait que... on peut dire tout et son contraire. Moi, je pense qu'on a une responsabilité. Et alors, elle a toujours été, pour moi, mais elle l'est encore plus aujourd'hui, vu le contexte dans lequel
on
vit. Et on a même, enfin, la loi Hoguet nous le dit, hein, on a même un devoir de conseil. Je veux dire, si on revient à l'essence même de la chose. Et on doit être pédagogue au quotidien. C'est le premier point. Le dernier point, je pense que, du coup, aujourd'hui, avec cette multiplication des sources, on gagnerait à réunir ces sources, à faire une sorte de pot commun. Alors c'est un vœu pieux, hein, mais bon, pour avoir,
pas forcément,
pour parler d'une seule voix,
ça va arriver.
Parler d'une seule voix, avoir une voix plus forte là-dessus,
très bien.
Vers le public ou même vers les pouvoirs publics parfois, plus audible et plus juste.
Parfait, merci beaucoup. La deuxième question qu'on est posée au ménage, on va en écouter des éléments de réponse. Pour vous-même, vous allez vers quoi en 2021? Vos projets et la dimension de l'immobilier là-dedans.
Est-ce que le contexte, vous trouvez que c'est un facteur bloquant par rapport à un éventuel achat, une revente ?
Non, j'ai pas de projet d'achat.
D'accord. Vous êtes en location ?
Non, propriétaire.
Et vous restez là où vous êtes, sans bouger pour le moment ?
Voilà, j'habite derrière là.
Et vous, sur le plan des projets, de manière générale, 2021, c'est synonyme de quoi ?
C'est pour le moment, c'est synonyme de... on attend de voir et on n'arrive pas à se projeter.
Qu'est-ce que tu aimerais faire ?
Bah, voir mes amis, comme j'ai changé d'école et d'appartement.
Ah, tu as changé d'appartement ?
Oui.
Tu as déménagé ?
Oui.
D'accord, et tu te plais ?
Un petit peu.
Et donc tes projets ?
Je n'en ai pas trop.
Tu n'en as pas ? C'est compliqué un peu en ce moment, avec la crise ?
Oui, très compliqué. On peut pas, on est obligé d'avoir des masques à l'école, et ça, c'est très énervant.
Alors, des plus jeunes aux plus mûrs, des éléments de réponse. Delphine et Stéphane réagira ensuite. On a une visibilité aujourd'hui sur ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a des ménages, il en faut pour vous, puisque vous êtes à leur service, qui se projettent? Alors, se projeter dans l'immobilier, bah, c'est aussi s'endetter hein, pour 15, 20, 25 ans, c'est le maximum maintenant. Ça fait long. Il faut croire dans l'avenir. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de ces ménages-là? Est-ce qu'il va y en avoir moins? Est-ce qu'il va y avoir des craintes? On vient d'apprendre une baisse de la démographie. Hein, on fait moins d'enfants ces derniers mois. C'est aussi ça.
Déjà, ce que je trouve intéressant dans cette question et dans ce micro-trottoir, c'est qu'on parle de la vraie vie, là. On parle des vrais gens, on est sur de l'humain. Et c'est vrai que c'est fondamental. Avant d'être de l'immobilier, on parle de nos vies aux uns et aux autres. La question, elle n'est pas le prix, la transaction, l'économie, etc. Et on voit bien, on entend bien, ça le reflète bien, ce micro-trottoir, qu'il y a une énorme incertitude au sujet du lendemain. Il y a des go, no go, mais y compris d'ailleurs dans la communication du gouvernement aujourd'hui sur ce qu'on peut faire, pas faire, même à très court terme.
On peut le dire.
Donc il y a un très fort attentisme, je trouve, et je pense qu'il sera encore un petit peu là sur ce premier semestre, parce que les choix de vie de nos concitoyens vont effectivement parfois impliquer des choix immobiliers qui peuvent être souhaités ou qui peuvent être subis. Dans le cas d'une mutation, d'un chômage, d'un licenciement. Voilà, donc on touche vraiment au quotidien. Et je pense que ce contexte historique qu'on est en train de vivre là, qui crée une peur du lendemain, quand même, et qui fait qu'on vit beaucoup plus au jour le jour qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, fait qu'on va avoir du mal à se projeter. Et on le sent encore, nous, en début d'année, même si le téléphone frétille un petit peu plus qu'en fin d'année. Il y a quand même quelques nouveaux besoins, quelques nouvelles envies qui arrivent. Mais pour combien de passages à l'acte ? Je reste assez mesurée là-dessus. Il y a aussi des déceptions. Des gens qui, après le premier confinement, se sont sentis pousser des ailes avec le télétravail, qui ont voulu déménager, partir vers la campagne ou la pièce en plus, etc. Et qui finalement commencent à en revenir un petit peu en se rendant compte que le rêve de campagne, bah, finalement qu'on est habitué à une vie très urbaine, la qualité de service n'est pas la même, on n'a pas les mêmes prestations.
Les aménités, comme on dit.
Exactement. Et puis, on a aussi des entreprises qui commencent un petit peu à changer d'avis sur le télétravail. En tout cas, d'un point de vue, pas permanent, mais d'un point de vue un petit peu plus de tendance de fond.
Structurel.
Voilà, structurel, exactement. Donc, je pense que, comme on l'a entendu là dans le micro-trottoir, c'est compliqué aujourd'hui de faire des projets, quels qu'ils soient. Mais même un projet pour dans une semaine ou deux. Vous voyez, on est encore en train d'attendre les prochaines mesures pour savoir ce qu'on va pouvoir faire et professionnellement et personnellement les uns et les autres, les vacances scolaires, etc. Et l'immobilier, pour moi, reflète exactement ça.
Alors, Stéphane, Delphine dit ça, et avec une clientèle, elle l'a dit, en termes de catégorie socio-professionnelle, plutôt favorisée. La clientèle de Guy Hockey, elle est très large. Elle comprend aussi des ménages en catégorie intermédiaire, comme on dit, voire des ménages qui ont peu de moyens. Qu'est-ce que tu anticipes de ce que pourront faire les ménages, hein, à la tête d'une entreprise? Il faut aussi un peu imaginer, et pour le compte de tes adhérents franchisés, ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu déroules devant toi?
Alors, je vais peut-être un petit peu être en contradiction.
J'aime ça.
Aujourd'hui, je vois une dynamique marché qui est soutenue et il y a aucune raison aujourd'hui apparente, à l'exception d'une crise majeure qui viendrait impacter ce marché-là aujourd'hui. Je vois pas du tout la dynamique s'arrêter parce que c'est une nécessité de changer de logement. Quand je veux changer de logement, c'est parce que j'ai un enfant en plus, parce que je me suis déplacé. Et ça ne s'arrête pas parce qu'il sera toujours plus intéressant de capitaliser, même si aujourd'hui les prix s'envolent moins, qu'on fait moins de plus-value dans 10 ans. Et puis c'est un projet pas à l'aune d'une crise sanitaire ou même économique qui durerait 2 ou 3 ans. On l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit Henri, c'est 25 ans un crédit. Donc,
justement, encore faut-il qu'on veuille bien nous donner les moyens
Pour l'instant, les taux sont bas. Le marché continue d'évoluer en termes de prix de façon légère, mais il évolue.
Ce qui est plutôt mieux, s'il y a une modération.
Ce qui est plutôt une bonne chose, mais ça reste encore une valeur extrêmement sûre. Il fait toujours meilleur d'habiter chez soi et de capitaliser plutôt que de louer, d'envoyer des loyers à fonds perdus.
Sur le crédit, tu n'as pas d'inquiétude. Tu penses que les banques qui sont très sollicitées pour soutenir les entreprises, même s'il y a l'État derrière, tu penses qu'elles vont être au rendez-vous de l'accession à la propriété, comme on dit pour tout le monde, elles vont pas fermer un peu les robinets, parce qu'il y a déjà des indices, ça manque de clarté, mais...
Elles ont déjà fermé les robinets en partie. En fin 2019, le HCSF avait déjà durci les conditions d'octroi, il les a un petit peu allégées, mais très mesurément dernièrement. Quand bien même il les durcirait, très sincèrement, je ne vois pas aujourd'hui la dynamique marché s'emballer, enfin ne pas s'arrêter. C'est pas, vous savez, hein, 0,40 sur un prêt, c'est, on parle de 40 euros, 30 euros par mois. On n'arrête pas un crédit de 1000 balles pour 40 euros. Quoi.
Donc, alors, la dernière question posée à nos compatriotes, comme dirait le président de la République, elle porte justement sur leurs anticipations du marché, qu'ils soient directement concernés ou pas, selon la maturité de leur projet. C'est l'activité et ce sont les prix aussi.
C'est une bonne question. C'est sûr que la conjoncture économique n'est pas bonne, hein, pour 2021. On connaît déjà, et puis ça va pas s'améliorer, une crise économique vraiment sans précédent. Donc j'ai tendance à penser que l'immobilier va souffrir également. Ensuite, ça va dépendre effectivement des endroits. Je pense qu'à Paris, malgré tout, on reste dans un marché immobilier qui a tendance à se maintenir malgré les cycles économiques. Donc j'aurais tendance à penser que le marché parisien, en tout cas dans les quartiers qui sont des quartiers, on va dire, de valeur sûre, enfin voilà, les beaux quartiers comme on peut les appeler, je pense pas que les prix vont énormément baisser. Peut-être que d'autres arrondissements souffriront un petit peu plus. Après, on parle effectivement d'exode des Parisiens maintenant que le télétravail est beaucoup plus développé. Personnellement, je le vois pas. Ça semble faire du sens, mais je l'ai pas encore constaté. Donc à voir si ça aura un impact ou pas sur les prix à la baisse.
Delphine.
Je partage le point de vue de cette auditrice sur le marché parisien. Effectivement, on ne s'attend pas...
Elle est réfléchie, hein. Il y a une maturité dans sa réflexion. Vous ne pouvez pas se le penser, mais c'est très bien.
Non, elle est bien informée pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Elle est bien informée.
Oui,
effectivement, à Paris, on n'envisage pas un marché qui va s'écrouler. On imagine très bien que la plupart des quartiers valeurs sûres jusqu'à présent resteront des valeurs sûres. Éventuellement, un petit ralentissement des prix, mais ce serait pas plus mal. Et on l'a déjà noté.
Nous l'ont dit il y a quelques heures, hein, le marché parisien, en volume et en prix, est clairement en train de marquer le pas. Hein,
et on l'a senti sur le terrain depuis le mois de septembre.
Comme on dit dans l'armée,
d'ailleurs. Oui. Puisque les notaires, ce que les notaires constatent aujourd'hui, ce sont finalement des offres qui ont été acceptées en fin d'année. Et c'est vrai que depuis le mois de septembre à Paris, on avait remarqué que déjà, on avait un petit peu plus de temps pour se positionner sur un bien, alors qu'on était sur un marché quasiment de l'instantané avant la crise.
Il redevenait normal, hein.
Voilà, tout à fait.
On pouvait réfléchir, revisiter un bien avant de s'engager.
Étudier les différents documents de copropriété, etc., avant de s'engager. Et puis aussi, négocier un petit peu les prix par rapport aux velléités des vendeurs qui étaient restés sur des tendances de prix affichés assez élevées. Donc, sur Paris, je ne me fais pas trop de soucis. Une petite correction des prix qu'on sent effectivement, mais qui est plutôt saine. Parce qu'on avait des niveaux d'évolution qui étaient beaucoup trop élevés de toute façon.
Donc, plus 8% en 2019.
Hein,
donc, cette ville, on parle de Paris aujourd'hui, était...
Et plus 8%, comme c'est une moyenne, ça cache évidemment des disparités, ce qui signifie qu'il y avait des quartiers et certains types de biens aussi. Nous, ce dont on s'aperçoit à Paris, c'est que l'appartement sans balcon commence un tout petit peu à être délaissé. Pour cause le confinement, où on a besoin à un moment de prendre l'air. Et puis, évidemment, un petit report quand même sur la proche banlieue, voire sur la deuxième couronne.
Sur des villes moyennes aussi
Sur des villes moyennes de banlieue parisienne, oui. Mais accessible. La difficulté, c'est systématiquement, je dois être à moins de 15 minutes ou 10 minutes à pied de la gare et je dois aller en 30 minutes maximum à Paris en transport en commun. Bon, voilà pour le marché parisien. Après, sur le marché au sens large et sur sa perspective 2021, effectivement, bien malin celui qui saura dire ce qu'il va en être, parce qu'on est encore soumis à de l'incertitude, que ce soit d'un point de vue sanitaire, parce qu'on ne sait pas encore comment la campagne de vaccination va pouvoir accélérer ou non.
C'est juste.
D'un point de vue économique, bien sûr, moi je m'attends quand même, malheureusement, à des sujets de chômage plus fréquents. à des sujets de chômage partiel aussi, hein, parce que dans le chômage, enfin, il y a la question du licenciement qui vont potentiellement arriver sur 2021, puisque les vrais effets économiques dans les entreprises qui ont été, comme vous le disiez tout à l'heure, très aidées en 2020, vont arriver en 2021. Les budgets ont été faits en fin d'année.
Indéniable.
Les effets ne se ressentent pas encore, mais les plans de licenciement existent déjà. Hein, ils vont commencer à être mis en œuvre en 2021. Et puis, effectivement, qui va pouvoir acheter cette année ou qui va pouvoir louer? Parce que, je suis désolée, mais même sur de la location, quand on connaît les garanties qui sont demandées aujourd'hui aux salariés, en dehors d'un salarié en CDI, mais qui, du coup, n'aura pas de chômage partiel, ne travaillera pas dans l'aéronautique, pas dans la communication, pas dans l'événementiel, pas dans la restauration, qui va pouvoir louer? Qui va pouvoir amener à un bailleur les garanties suffisantes? Et pour l'acquisition, en ce qui me concerne, mon analyse est la même, parce que, comme on le disait juste avant, il faut aussi apporter des garanties à son banquier. Et aujourd'hui, les conditions, on le voit y compris dans nos clientèles CSP+, nos clients qui avant nous disaient « Non mais le prêt, ce sera une formalité, c'est pas un souci et j'achète sans conditions suspensives. »
C'est moins le cas.
Point 1, ils commencent à remettre des conditions suspensives de prêt.
Bien sûr.
Point 2, on a quelques refus de prêt. Ça n'était jamais arrivé sur cette clientèle-là précédemment.
Et c'est vrai aussi sur l'investissement locatif.
Tout à fait.
Stéphane, alors, beaucoup de choses hein, dans les réactions de Delphine. En contrepoint, comment vois-tu les choses? On a parlé du marché des grandes villes. Notre auditrice parlait de Paris, qu'elle estimait robuste, comme on dit, un marché qui devrait continuer à tourner. Mais enfin, on voit qu'il a baissé en volume significativement. Il baisse aussi en prix depuis quelques mois. Quid des grandes villes? Quid de ces villes intermédiaires? Guy Hocquet est aussi présent sur ces territoires. Voire quid des marchés ruraux? Volume, prix, ton sentiment avec sûrement l'arrière-pensée aussi du crédit hein, qui est la clé d'accès au marché pour tout le monde aujourd'hui.
Alors, au national d'abord, tout confondu, en ne faisant aucun distinguo, un prix, il se fait par la demande et l'offre. D'accord ? Donc là, soit si on veut voir baisser les prix demain, ce que je ne crois pas, il faudrait que l'offre sorte du chapeau demain, ce qui est déjà compliqué, puisqu'aujourd'hui les constructeurs ont été ralentis par les gilets jaunes, ralentis par les municipales, stoppés par le Covid. On sait qu'il y a un déficit de logement en France, même la démographie, si éventuellement elle a baissé, aujourd'hui, la demande aujourd'hui presse très très fortement, et notamment grâce aux conditions de crédit qui sont très très favorables. Donc je vois pas, au global, les prix baisser, sauf à vraiment une hécatombe pour le coup de l'autre côté, le côté de la demande, une hécatombe de chômage et une crise économique majeure. Le gouvernement a fait le pari de favoriser la demande en aidant un petit peu tout le monde pour se dire que si jamais je fais ça, je relance au moins des points de croissance. Est-ce que ce sera vrai ou pas vrai? Il faudra attendre pour le voir. Donc déjà au global, je vois pas de baisse de prix à long terme. Et quand bien même on avait une crise économique, elle viendrait partiellement et en tout cas ponctuellement une baisse de prix. Derrière, ça reprendrait de plus belle.
La baisse de prix servirait à ça, d'ailleurs, à permettre une relance.
Hein. Une relance. Et après, derrière, les prix... Et comme une fois, encore une fois, on le redit, c'est un projet à 20 ans, même si vous vendez au bout de 7, 8 ou 10, vous avez le temps de revoir les prix et évoluer. Donc, il est toujours intéressant d'acheter. En ce moment, il est toujours intéressant d'acheter. Et c'est ce qu'on doit dire à nos clients et les aider. Aujourd'hui, le crédit, c'est disponible. Si jamais ça se durcit... Ça fera éventuellement descendre légèrement les prix en termes de négociation, mais je vois pas plus que ça. S'agissant de Paris, c'est un truc un peu particulier quand même. C'est quand même la particularité française, c'est quand même Paris. Aujourd'hui, on le voit, oui, en première couronne, ça s'est stagné, ça a stagné à Paris. Ça a évolué en première couronne et encore plus en deuxième. Et dans les premières couronnes la partie de la première couronne qui a le plus évolué, c'est celle de Sud-Est, puisqu'on voit la ligne 15 du Grand Paris qui arrive, qui Absolument. Est imminente. Donc on a Montrouge, Arcueil, Villejuif qui vont commencer à exploser. Mais en prix, je pense qu'il va y avoir des explosions de prix à l'ouverture, comme ça s'est passé à l'ouverture de la LGV en 2017 pour Bordeaux, qui a pris 17% en une année.
Absolument. Quoi,
ce qui était lunaire. Quoi.
Donc des nouveaux territoires aussi qui vont apparaître avec la création effective du Grand Paris, mais c'est vrai aussi pour les autres grandes villes qui se structurent.
Toujours, la cube de Bordeaux, bien sûr, le Grand Lyon, tout à fait. Donc, toutes ces choses-là aujourd'hui. Donc c'est bien parce que ça favorise et ça étend, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis la Covid a plutôt aidé de ce point de vue-là, puisque les gens ont voulu, même s'ils en reviennent, on est vraiment d'accord sur ce sujet-là, les gens se sont dit, nous on va aller en province... ou alors en grande banlieue, puis après ils se sont dit, ah, pour aller chercher le pain, faut une voiture.
C'est ça.
Alors,
exactement.
Écoutez, on est au bout de ce débat. Moi, je voudrais vous remercier tous les deux de votre franchise, d'abord, parce que je crois que vous avez dit sans retenue ce que vous ressentez, chacun de votre balcon professionnel. Vous remercier de la courtoisie du débat. Il y a, regardez de près, il y a effectivement des divergences d'appréciation. Et puis, vous avez pris des risques, parce que là, il s'agit de parler d'un marché dans une période très très particulière, mais vous avez donné des repères, que ce soit au public ou que ce soit à vos confrères. Je vous remercie beaucoup. Rendez-vous dans un mois pour d'autres avis de valeur.
Merci beaucoup.
Merci.
Avis de valeur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.